Voilà, la porte est fermée. Nous sommes bien installés pour démarrer la deuxième partie de cette après-midi passionnante. J'ai l'honneur d'avoir deux autres chifous près de moi. En l'absence de M. Bender qui a des soucis de santé, François Bugnon a accepté au pied levé de venir partager avec nous ses connaissances et sa contribution concernant deux missions du CICR pendant les guerres balkaniques. Merci François d'avoir accepté de faire cela. Mais pour ceux d'entre vous qui avaient lu les biographies, vous savez tout de François Bugnon, mais si vous regardez la première page, vous avez ce très beau tableau. Et vous avez certainement remarqué un air assez commun entre un monsieur du tableau et François qui est à ma droite. Si vous regardez bien ce tableau, il y a un homme qui se tient droit debout et qui nous regarde à côté de cette infirmière qui, dans la partie gauche du tableau.
Directrice de la source, l'école de la source.
Voilà. Et ce monsieur est le docteur Charles Marcel qui est en fait l'arrière-grand-père.
C'est juste.
De François, donc. Donc voilà, François Bugnon est exceptionnel à plusieurs titres. Aujourd'hui, il est exceptionnel à ces titres-là. Il est dans le tableau et nous raconte des choses passionnantes sur deux missions du CICR pendant les guerres balkaniques. François, vous avez la parole.
Merci, Madame la Présidente. Comme ça, vous savez pourquoi j'avais très envie de parler de l'affaire des Bourbaks. Parce qu'en vérité, lorsque j'étais enfant, tout petit enfant, ma grand-mère me racontait comment elle avait accompagné son père, qui était médecin, qui allait rendre visite à ses internés français. Je pense à elle qui portait le panier avec les confitures ou ce genre de tâches qu'on peut confier à une demoiselle de 7 ans. Je ne vous dis pas que je serai bref. Parce que quand un conférencier commence son exposé en disant qu'il sera bref, vous pouvez être sûr qu'il va parler très longtemps. Parce que si vraiment il est bref, il n'a pas besoin de le dire. Mais je ne serai pas très long, j'espère. Notamment, je n'ai pas besoin de présenter le contexte des deux guerres balkaniques, puisque cela a été fait ce matin avec beaucoup de brio par Madame Raimonda Ottaviani. Donc vous voyez cette situation qui va marquer profondément la péninsule balkanique avec deux guerres successives en 1912 et 1913. Et en vérité, ces deux guerres se greffaient sur une guerre précédente qui a eu lieu en 1911, qui était une guerre entre l'Italie et l'Empire ottoman, et c'est cette guerre qui avait en fait beaucoup affaibli l'Empire ottoman et qui avait permis aux États balkaniques, qui étaient des États membres de la Ligue balkanique, qui étaient évidemment beaucoup moins équipés militairement, de tenter leur chance contre ce puissant voisin avec qui ils étaient en conflit. Et cette situation va amener le CICR, donc après cette très longue période, de plus de 30 ans, où le CICR n'envoie aucune mission directement sur le théâtre des hostilités, a envoyé successivement deux délégués. Donc c'est deux missions distinctes qui se suivent, c'est pas deux délégués qui partent ensemble. Le premier, le CICR fait appel à une personnalité très en vue au sein de la Croix-Rouge suisse, le docteur Karl de Marval. C'est pour ça que je comptais sur Philippe Bader pour en parler, puisque lui appartient à la Croix-Rouge suisse, a accès à la documentation de la Croix-Rouge suisse directement, et il en aurait parlé beaucoup mieux que je n'aurais pu le faire. Mais c'était une personnalité très en vue, très active au sein de la Croix-Rouge suisse, également très présent lorsqu'il y avait des réunions internationales, et à ce titre-là, il était bien connu du CICR, ce qui explique pourquoi le CICR fait appel à lui. Je suis pratiquement certain qu'il était également un médecin militaire d'un rang important, parce que dans le procès-verbal du comité, il est bien précisé qu'il partira avec son brassard, mais pas avec son uniforme. Et sans doute, le comité voulait éviter donc que son mandataire, son représentant, aille se promener dans cette région avec un uniforme militaire. Quel était le but de cette mission? Eh bien, c'était très clairement de se documenter sur l'assistance aux blessés, sur la façon dont est organisée l'assistance aux blessés. Et ça ressort, cet élément ressort clairement de son rapport qui est publié. Il s'est rendu successivement en Serbie, en Bulgarie, au Monténégro et en Grèce, donc les quatre pays qui s'étaient ligués contre l'Empire ottoman. Il ne fait pas rapport, je dirais, directement sur la situation des blessés, mais beaucoup plus sur l'organisation des soins, l'organisation des secours, et notamment et tout particulièrement comment est-ce que les sociétés de Croix-Rouge de cette région, respectivement le Croissant-Rouge ottoman, s'organisent pour s'acquitter de leur mission pour venir en aide aux blessés. C'est une mission qui dure, je ne sais plus exactement, mais quelques mois. Et lorsqu'il rentre, le CICR rend compte de cette mission en publiant le rapport du docteur de Marval dans la revue internationale de la Croix-Rouge. Donc c'est clairement une mission à laquelle que l'institution assume vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres sociétés nationales. Et c'est un point sur lequel je reviendrai. Néanmoins, peu après le retour du docteur de Marval, le CICR décide d'envoyer une deuxième mission qu'il confie cette fois à l'un de ses membres, qui est le docteur Frédéric Ferrière, qu'on a déjà rencontré, elle est malheureusement plus là maintenant à travers la belle présentation de Madame Valérie Lathion, et dont j'ai, et lors de la guerre de 1870-71, et dont j'ai rappelé la mission qu'il a effectuée au Monténégro en 1876-77. Donc c'est le même docteur Ferrière qui à ce moment-là, évidemment, ce n'est plus le jeune homme qui se précipitait à Baden, dans le duché de Baden, et de là, dans une ambulance qui circule en France. C'est évidemment un homme déjà à cheveux très blancs, mais qui, malgré son âge, affronte un voyage difficile dans des pays en guerre. Pourquoi cette mission? Eh bien, certainement, le CICR était resté avec une certaine insatisfaction sur un point de la mission du docteur Karl de Marval, même si ça ne ressort pas directement des procès-verbaux, à savoir que malgré les injonctions du CICR, le docteur Karl de Marval n'avait pas poussé son voyage jusqu'à Constantinople. Et sans doute que le fait de ne s'être pas rendu à Constantinople devait créer un embarras pour le CICR qui, dans le cours de sa mission, l'exhorte à poursuivre son voyage, et puis Karl de Marval dit « oui, bien sûr, si possible, je le ferai », et finalement n'y va pas. Donc par rapport à la position de neutralité du CICR, c'était certainement gênant que ce délégué se soit rendu dans les pays de la Ligue balkanique, mais pas dans le pays adverse, dans l'Empire ottoman. Le docteur Ferrière, lui, va se rendre en Serbie à nouveau, en Turquie, et enfin l'Empire ottoman, et ensuite en Grèce, pour examiner comment s'organise, et alors cette fois non plus l'assistance aux blessés, mais sa mission, elle est très clairement orientée sur la situation des prisonniers de guerre, mais encore, à nouveau, beaucoup plus que la situation des prisonniers de guerre, c'est comment s'organise l'assistance aux prisonniers de guerre, donc quelle démarche a-t-on fait pour obtenir des listes de prisonniers, avec quel succès? Et ça concerne des chiffres importants, même si maintenant, avec le recul d'un siècle, ces guerres nous paraissent des événements d'importance limitée. Pour vous donner un seul chiffre, il y avait 75 000 prisonniers de guerre turcs en Grèce. La Grèce, à l'époque, elle n'est pas dans ses frontières qui sont celles de la Grèce d'aujourd'hui. C'est un beaucoup plus petit pays. C'est évidemment extrêmement pauvre. L'accueil, ou disons l'internement, l'entretien d'une masse de ce type de prisonniers est certainement un problème. Il y en avait aussi des nombres significatifs dans les autres pays de la Ligue balkanique. Donc, ils se renseignent dans quel pays est-ce qu'on a fait des démarches pour obtenir des listes, est-ce qu'on les a obtenues, est-ce qu'on ne les a pas obtenues, quel usage a-t-on fait, est-ce qu'on a établi des cartes à partir de là, de façon à pouvoir répondre aux demandes des familles, comment est-ce qu'on traite les enquêtes, les demandes des familles, y a-t-il un acheminement des secours, et comment est-ce que c'est organisé. Donc, une mission qui, cette fois, porte, est tout à fait ciblée, et c'est nouveau dans les activités du Comité international de la Croix-Rouge, sur l'action d'assistance aux prisonniers de guerre. Bien sûr, il attache une importance toute particulière à l'agence que le CICR a ouverte à Belgrade pour la transmission des renseignements et aux bureaux nationaux de renseignements sur les prisonniers de guerre prévus par le règlement de la haie annexé à la Convention 4 du 18 octobre 1907. Alors pourquoi cet intérêt pour les prisonniers de guerre? C'est en un sens une longue histoire dans le cadre de la Croix-Rouge, puisque la première mention de cet intérêt pour les prisonniers de guerre, s'il était là, il nous le rappellerait immédiatement, le professeur Vanni, ça remonte au rapport que Dunant fait à la conférence de Paris de 1867. Et puis on a les initiatives du comité en 1870 à travers l'image de la Croix verte. Mais rien de tout cela n'a débouché sur une véritable décision d'étendre le mandat de l'institution de façon à comprendre également la protection des prisonniers de guerre. Et cette situation change au moment où la conférence internationale, la première conférence internationale de la paix, réunie à La Haye en 1899, adopte un article 15 du règlement de La Haye qui dit, et qui sera reproduit mot pour mot dans la convention de 1907, les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre régulièrement constituées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d'être les intermédiaires de l'action charitable recevront de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité dans les limites tracées par les nécessités militaires et les règles administratives pour accomplir efficacement leurs tâches d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les dépôts d'internement ainsi que dans les lieux d'État. Donc on ouvre bien grand la porte à des sociétés de secours aux prisonniers de guerre qui n'existent pas. Et alors le problème pour la Croix-Rouge, c'est est-ce que ça nous concerne ou est-ce que ça ne nous concerne pas? Et la Croix-Rouge est exhortée, notamment par deux délégués très, très brillants, Louis Renault et de Martens, Théodore de Martens, disant « Mais prenez ça en main! Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. » Parce qu'il n'est pas possible de créer des sociétés ad hoc pour venir en aide aux prisonniers. Hier, ce sera perçu comme une marque de défaitisme. Puis dans le même temps, la Croix-Rouge se dit « Mais est-ce qu'on ne va pas être accusé de détourner des appuis qui nous sont donnés pour venir en aide aux blessés si nous les affectons à d'autres tâches ?» Et ça occupera trois débats de conférences internationales en 1902 à Saint-Pétersbourg, en 1907 à Londres et en 1912 à Washington pour finalement déboucher sur une résolution par laquelle la Croix-Rouge accepte de se substituer à ces sociétés pour les prisonniers de guerre, donc de remplir le rôle prévu par le règlement de la haie, mais fait aussi du CICR en quelque sorte le canal obligé de cette assistance ou le pivot de cette assistance, puisqu'il est dit le comité international, par l'intermédiaire de délégués neutres accrédités auprès des gouvernements intéressés, assurera la distribution des secours qui seront destinés à des prisonniers désignés individuellement et répartira les autres dons entre les différents dépôts de prisonniers. Donc, véritablement, ça confie au CICR, ou ça investit le CICR d'une lourde responsabilité. Et ça vous explique le caractère exploratoire de la mission confiée au docteur Ferrière, d'aller voir comment maintenant on va pouvoir s'acquitter de ce mandat nouveau. Et tirer des enseignements, ça ressort très clairement de son rapport, tirer des enseignements de ces guerres balkaniques dans la perspective d'une guerre future. Pourquoi ce type de réflexion ? Eh bien, il est frappant de voir que la résolution de la conférence de Washington, c'était la première et à ma connaissance la seule, assortie d'une clause d'urgence, puisque les sociétés nationales étaient invitées dans un délai d'une année à organiser un service d'aide aux prisonniers de guerre et à se mettre en rapport avec le CICR pour cela. Donc, il y avait l'idée qu'il fallait agir vite, parce que tous ceux qui ont les yeux ouverts constatent que l'Europe passe d'une crise à l'autre et que cette accumulation de crises, tôt ou tard, va déboucher vers une nouvelle guerre entre les grandes puissances européennes. De récentes complications diplomatiques nous ont rappelé combien la paix est incertaine. N'attendez donc pas le bruit du canon pour vous laisser convaincre, avait déclaré l'un des délégués français lors de la conférence de Washington. Donc il y a un sentiment, en vérité, probablement qui doit être très angoissant pour des gens de cette génération, de se dire la guerre est imminente et comment allons-nous nous y préparer. Ceci nous explique cette mission, à la fois la mission du docteur de Marval et plus encore celle que le CICR confie au docteur Ferrière, c'est de se préparer à une guerre future, et évidemment une année plus tard, avec l'éclatement de la Première Guerre mondiale, le CICR sera en situation de mettre à profit les enseignements tirés de ces deux missions. Je vous remercie.
Merci François pour cette contribution. Vous nous avez fait voyager du règlement de La Haye à la conférence de Washington pour mieux comprendre ce nouveau mandat alors du CICR sur la question de l'assistance des prisonniers de guerre. L'actualité et le monde contemporain nous dit que cette question est encore très pertinente. Si on voyageait un instant depuis la conférence de La Haye jusqu'à cette journée d'octobre 2013, qu'est-ce que nous apprend ces deux missions que nous devons garder à l'esprit ?
Cela nous apprend d'abord qu'on ne peut pas se réfugier derrière les limites du mandat, dire « Ah non, alors ces victimes-là, c'est les nôtres, on s'en occupe, et puis ces victimes-là ne sont pas les nôtres et on ne s'en occupe pas. » Je crois que également la présentation sur la Croix-Rouge américaine l'ont montré d'une autre façon, qu'il est important d'avoir l'esprit extrêmement ouvert et d'être prêt à répondre. Finalement, le seul étalon, c'est le besoin des victimes. Alors ensuite, question d'ordre, d'organisation, qui fait quoi, il n'est pas bon que chacun s'occupe de tout, mais ça c'est autre chose. La question de principe, c'est comment s'assurer que les besoins sont couverts. Ça c'est un élément. Et puis le deuxième élément, c'est que malheureusement, on est obligé de se préparer et que l'histoire nous montre que c'est souvent le pire qui se produit, hélas.
À travers toutes les conférences qui sont organisées, le rôle du Comité international de la Croix-Rouge revient sans cesse et il y a effectivement beaucoup à apprendre. Vous le savez certainement, François Bignon est actuellement membre du Comité international de la Croix-Rouge et il est très à même de nous éclairer sur toutes ces problématiques dans son histoire et aujourd'hui. François, merci de cette contribution. Je vais vous demander de rester avec nous. S'il n'y a pas d'autres questions...
Oui, je voudrais savoir s'il vous plaît, Karl de Marval et Frédéric Ferrière donc, sont partis en mission envoyée par CICR, sont-ils partis seuls ou accompagnés avec quelqu'un d'autre, à l'autre délégué ou...
Non, alors les sources n'indiquent pas du tout qu'ils seraient partis accompagnés, fût-ce par un guide, un chauffeur ou comme ça. Non, je ne crois pas. Je crois qu'ils partaient et qu'ensuite ils étaient hôtes des sociétés nationales ou des gouvernements qu'ils rencontraient. mais c'est une mission qui les porte dans les capitales. Ni l'un ni l'autre ne fait le type d'expédition que le docteur Ferrière fait au Monténégro, où il part plusieurs jours, aujourd'hui on dirait en brousse.
François a lui-même été délégué sur de nombreux fronts de conflits et très présent dans de nombreuses conférences. Ce qu'il nous a raconté du chemin de La Haye à la conférence de Washington montre combien il est difficile de faire décider les membres et les États sur des questions qui nous préoccupent tous au quotidien. Donc merci d'avoir éclairé nos esprits, François. Je crois qu'on va passer vers le prochain interlocuteur. Bernardino Fantini est quelqu'un de prestigieux à Genève. Ses titres sont nombreux, ses passions sont aussi très nombreuses. Vous avez sa biographie dans le document d'introduction, mais ce que j'aimerais vous dire de lui, c'est que c'est un passionné de l'histoire nationale et internationale de la Croix-Rouge. C'est un spécialiste de l'histoire de la Croix-Rouge italienne. Sa thèse de doctorat portait sur le paludisme en Italie. Et le sujet dont il va nous parler ce soir, c'est la Croix-Rouge italienne en ordre de marche dans la guerre à la malaria. Donc ça combine ces deux passions, la problématique du paludisme et l'histoire de l'Italie. Bernardino, vous avez la parole.
Merci. Avant d'entrer dans le vif de ma présentation, un petit préambule. Donc, le résumé de ma conférence que vous trouvez dans le petit livre des résumés est faux. C'est le résumé de ma conférence précédente au colloque du mois de février. Mais ce n'est pas grave, au contraire, c'est presque un avantage, parce que cette petite erreur dont je suis responsable, pour ne pas avoir transmis à temps mon résumé véritable, me permet de soulever un point important de ma conférence. En effet, dans ma conférence précédente, j'ai parlé de l'œuvre de Palaciano, médecin italien napolitaine, qui montrait finalement que l'histoire de l'humanitaire en Italie était déjà une longue histoire. Et donc, il faut un peu expliquer pourquoi l'action de la Croix-Rouge contre le paludisme commence à peu près 40 ans après les origines de cette organisation. Deuxième petite préambule, le titre même de ma conférence, parce que c'est la seule, je crois, que dans laquelle on traite de l'action, comme on dit, de la Croix-Rouge en temps de paix, et en réalité on continue à parler de guerre, un ordre de marche dans la guerre contre le paludisme. En effet, cela dérive du vocabulaire utilisé par le spécialiste eux-mêmes, qui, au début du XXe siècle, parlait effectivement de guerre à la malaria. Par exemple, dans un article très important d'un des protagonistes de la malariologie italienne, l'hygiéniste Angelo Celli, de 1906, le titre de cet article était justement « L'organisation de la guerre au paludisme ». Et quand le ministre Guido Baccelli, médecin et professeur à l'Université de Rome, La Sapienza, présente à la Chambre des députés son projet de loi pour la distribution gratuite de la quinine, qui a fini par devenir la loi de 1903, ne cachait pas les difficultés qui avaient entravé l'assainissement de l'agro-romano, que c'était très connu par les peintres de l'âge romantique. Et en effet, le ministre Baccelli, qui avait déjà publié un livre sur le paludisme dans la campagne romaine, écrivait « Le paludisme est pour nous le grand obstacle, comme dans une guerre menée, si bien que nous voyons aujourd'hui se mobiliser chaque année pour notre campagne, la méritoire Croix-Rouge ». Donc on parle de guerre, on parle de campagne, c'est une pléthore de métaphores militaires qui sont largement utilisées. Cela n'est pas nouveau, ni se termine là. En effet, les métaphores militaires sont encore aujourd'hui largement répandues et on parle d'attaque, de défense, d'éradication, de destruction, on parle d'armes finales, comme dans le cas du DDT, ou encore récemment d'armes génétiques contre les moustiques. Dans les cas du paludisme, cette métaphore est d'autant plus utile parce qu'en effet, il s'agissait de lutter contre un ennemi qui était devenu depuis peu visible, c'est-à-dire les protozoaires Plasmodium et son vecteur, le mystique Anopheles, et il s'agit également de conquérir ou libérer un territoire. Donc ce sont les deux buts fondamentaux d'une guerre. Il faut dire aussi que le paludisme a représenté pour l'Italie un grand problème médical, un difficile problème scientifique, mais surtout un immense problème social à cause de la diffusion sur le territoire, car une grande partie du territoire national était dominée complètement par la présence du paludisme, et je reviendrai sur ce point-là. Donc ça c'est Baccelli, ça c'est très sympathique, donc le ministre qui se promène dans Rome et fait une consultation à un paysan qui lui pose des questions justement sur comment traiter le paludisme. Alors, toute historienne, à chaque fois que doit parler d'une guerre, doit se poser deux ordres de questions qui concerne en premier lieu les choix de l'ennemi. Quel pays, et dans notre cas, quelle maladie? Pourquoi la Croix-Rouge est mobilisée contre le paludisme et pas contre le typhus ou la tuberculeuse à cette époque? Il le fera plus tard, mais pas à cette époque. Deuxièmement, pourquoi cette guerre commence à ce moment-là de l'histoire, ni avant ni après, exactement en 1900? Cette date est significative et je voudrais essayer dans ma conférence de répondre à ces questions avant d'illustrer avec quelques photos surtout l'action de la Croix-Rouge dans la campagne romaine et dans les marais pontins. Pour la première question, pourquoi la malaria? La réponse est facile. La malaria n'était pas la maladie la plus meurtrière en Italie, mais c'était elle qui entraînait, bloquait complètement le développement économique et social d'une grande partie du pays. Et pour la deuxième, c'est qu'à cette époque-là, fin 19e, tout début du 20e siècle, il y a les grandes découvertes scientifiques sur le mécanisme de transmission du paludisme qui permet finalement une prise rationnelle contre cette maladie. En effet, la malaria avait dominé, pas simplement l'histoire de l'Italie, mais l'histoire de la Méditerranée, car, comme l'avait écrit Fernand Braudel dans une histoire de la Méditerranée, la vie montagnarde semble bien avoir été la première mode d'existence de populations de la Méditerranée, car les plaines ont été les domaines des eaux stagnantes et de la malaria. Les plaines habitées, riches, images de la prospérité, que les montagnards regardent aujourd'hui comme les terres promises, ont été l'aboutissement tardif, pénible, de siècles d'efforts collectifs pour contrôler les eaux, pour vaincre la malaria. Si dangereuse qu'elle soit, la peste est une étrangère de passage à Méditerranée. La malaria, elle, y est à demeure. Elle constitue le fond du tableau de la pathologie méditerranéenne. Donc, conquérir les plaines est un rêve qui remonte à l'aube de l'histoire et qu'on retrouve aussi dans de nombreux mythes, notamment les mythes d'Héraclès, l'Hercule de Latin, qui symbolise la détermination des anciens à s'attaquer aux travaux les plus difficiles et gigantesques, parmi eux la lutte contre le paludisme. Le deuxième travail d'Héraclès, la lutte contre l'hydre de Lerne, est une représentation symbolique de la lutte contre les poissons palustres. Lerne, c'est une région marécageuse de Grèce. L'hydre d'un serpent à plusieurs têtes, de 5 à 100 selon les différentes versions, dont la laine, les mauvais airs, la malaria, est si mortelle que quiconque s'approche du monstre, même pendant son sommeil, meurt infailliblement. Si la pensée médicale a pu rapidement, et depuis Hippocrate, comprendre les pathologies et la clinique liées aux marées, les fièvres intermittentes, les possibilités de lutter contre elles ont été pendant longtemps presque nulles. Il n'est resté aux pauvres, aux paysans des régions marécageuses, que l'acceptation de la fièvre comme une fatalité inéluctable, ainsi que le renvoi de la grêle, de la sécheresse ou de la faim. Les paysans, écrivait Carlo Levi dans des pages émouvantes, je cite, vivent immergés dans un monde sans détermination, où l'homme ne se distingue pas de son soleil, de sa bête, de sa malaria. Là ne peuvent exister ni le bonheur, tel que le rêvent quelques hommes de lettres paganisants, ni l'espérance, qui sont toujours des sentiments individuels. Seul y règne la passivité sourde d'une nature douloureuse. Le Christ, en effet, s'arrêtait à Eboli, disait encore en 1936 les paysans pauvres du sud de l'Italie. Au-delà d'Eboli, il n'y avait que le paludisme. La population, donc, était fataliste, comme si la régularité de la fièvre donnait le sentiment de l'inutilité des efforts pour les combattre. Et bien sûr, même si les remèdes existaient à cette époque, notamment la quinine, il était très difficile d'imposer les médicaments ordinaires et la malaria, guérissable au plan individuel, prenait pour la société dans son ensemble l'aspect d'une maladie incurable, facteur décisif des stagnations économiques et sociales. Il y avait en effet un rapport étroit, comme il y en a encore aujourd'hui dans de nombreuses parties du monde, entre la prospérité, le développement et l'intensité de l'épidémie paludéenne. Le problème était alors pour Celli, comme pour l'ensemble des paludologues, de décider quelle était la cause et quel était l'effet. La malaria se développe-t-elle à cause du déclin économique qui oblige les gens à abandonner la campagne, ou au contraire, est-ce qu'une épidémie de malaria qui oblige les gens à partir? Incapable d'estimer la formidable puissance de la malaria mortelle, dans la campagne romaine, les gouvernements formés de personnes provenant la plupart du temps des régions du Nord, qui étaient fertilisées malgré une malaria légère, et poussés en faveur de la bonification de la campagne romaine. Et plusieurs efforts avaient été réalisés en ce sens, par d'importance d'œuvres de bonification, et les derniers efforts importants dans ce sens, après l'unification d'Italie en 61 et surtout la prise de Rome en 1870, avaient été faits sans succès par Giuseppe Garibaldi, déjà mentionné à plusieurs reprises dans notre collègue. Et là, c'est un premier point important, c'est que la nouvelle Italie, unifiée, est devenue consciente de ses moyens, se pose la question de bonifier, de résoudre les problèmes du paludisme en Italie en général et surtout de Rome, car la ville était encerclée par des territoires qui étaient totalement à 100% paludéennes. Et comme l'écrivait à l'époque la presse, comme une ville dans un désert. Donc, la bonification de la campagne romaine devenait, à ce moment-là, un point important. Mais 30 ans encore devaient passer avant que ces projets deviennent réels et deviennent, en plus, un succès. Et donc, il faut s'interroger sur les raisons de ces retards et sur les raisons, par contre, d'une mobilisation rapide au début du XXe siècle. L'histoire du paludisme est souvent présentée par les historiens des sciences et de la médecine comme une acquisition continuelle des connaissances et une accumulation d'expériences. Une histoire descriptive du contrôle de la malaria a montré qu'avant la fin du XIXe siècle, on avait accumulé une connaissance empirique considérable concernant les effets de certaines actions spécifiques qui semblaient pouvoir empêcher la transmission de la malaria. Mais cela n'avait pas encore un statut reconnu et il n'avait surtout pas d'efficacité. Alors, on peut donc affirmer, à ce moment-là, à la fin du XIXe siècle, qu'après plusieurs millénaires de fatalisme et d'impuissance, tout change. Pourquoi? Il y a deux explications, l'une d'ordre général, l'autre plus spécifique, qui permettent de comprendre cette mutation. Cette révolution scientifique, diraient les philosophes. La première a trait à la révolution pastorienne, la seconde aux grandes découvertes sous l'étiologie du paludisme. C'est surtout au niveau de la prophylaxie que le pastorisme a eu les conséquences les plus importantes, par la redéfinition même de la thérapie au moyen de laquelle on va désormais prévenir au lieu de guérir. Tout au long du XIXe siècle, à partir des données épidémiologiques, la malaria était devenue l'un des terrains d'élection du mouvement hygiéniste, qui avait pris une grande vigueur à partir de la première moitié du XIXe siècle. Toutefois, les doctrines des hygiénistes pré-pastoriens n'est marquée par aucun argument central, par aucune idée guide. Elle est faite d'une accumulation de connaissances non interprétées par un modèle théorique général, d'un amalgame de statistiques, d'études de cas, d'anecdotes, accompagnées sous le plan pratique par des conseils, des précautions, des recettes, des règlements. Comme le disaient Marchiafave et Bignami encore en 1902, deux des protagonistes de l'histoire de la malaria en Italie, il y avait un éclectisme prudent. On pouvait utiliser n'importe quoi. Et on admettait la possibilité de plusieurs parcours divers pour l'entrée des germes dans l'organisme. La terre, l'air, l'eau, les aliments, l'hérédité. Toutefois, si la maladie n'a pas une cause spécifique, unique, mais peut être occasionnée par des facteurs multiples, ils ne font rien négliger. Et ne rien négliger signifie l'impuissance. Par contre, dans le pastorisme, l'idée d'une cause spécifique, un germe spécifique pour chaque maladie, tout change. On commence à voir les ennemis et à les connaître. Et la même chose arrive dans notre domaine, grâce aux découvertes d'Alphonse Laveran, qui est le premier à décrire les parasites, dont la description sera précise, permettra aussi par Camille Logolge la première utilisation de la photographie pour illustrer ses travaux et de les mettre en forme. Cela permet de définir qui est les parasites et surtout grâce aux travaux de Patrick Manson, de Ronald Ross, qui produit les premiers dessins de la présence du parasite dans la trompe de la tête de Mystique, mais surtout par le travail de Baptiste Agassi, qu'on découvre les coupables véritables, c'est-à-dire les Mystiques qui transmettent la maladie. Tout de suite après, Grassi, Celli et les autres paludologues commencent à faire des conférences publiques, intervenir au Parlement. Maintenant, on connaît la cause, il faut intervenir. Donc, ça c'est la première page, la publicité plutôt, d'un texte de conférence qui a été donné par Grassi tout de suite après ses découvertes fondamentales sur les cycles de transmission du paludisme et à la présence de la reine d'Italie, conférence dans laquelle Grassi propose une deuxième colonisation. Et il dit clairement qu'il faut abandonner les rêves de la colonisation outre-mer pour se concentrer sur la colonisation à l'intérieur du pays pour finalement libérer le sud de l'Italie de la menace, de la triste réalité du paludisme. Grassi était un grand zoologiste qui publie des études importantes et qui produit des images extraordinaires pour l'époque, de toutes les phases de développement sur le développement du protozoaire à l'intérieur du corps des anophèles et du corps de l'homme. À la fin de cette période d'études, de découvertes, le paludisme a trois acteurs, les acteurs principaux et exclusifs de la transmission. Les populations humaines, les parasites et les anophèles. Et Grassi lui-même propose une loi qu'il appelle comme ça, la loi de Grassi, homme plus anophèle égale malaria. Pour combattre la malaria, il y a un remède très simple du point de vue théorique. Il faut agir sur les signes plus, en empêchant le contact entre les populations humaines et les anophèles. Et la démonstration que le cycle de transmission du paludisme, c'est un cycle fermé, Et donc, ce sont des phases de développement à l'extérieur du mystique et de l'homme permet de dire où il faut faire la guerre, où il faut attaquer pour bonifier les territoires. L'aspect décisif, c'est la simplicité théorique de l'équation qui permet d'empoigner les problèmes. C'est cette simplicité qui est à l'origine de la politique antipaludéenne moderne. C'est seulement à partir de ce moment qu'une politique de lutte devient possible. Et même la quinine, qui finalement n'a rien à voir avec les découvertes de cette période-là, qui avait été utilisée depuis le XVIIe siècle, seulement à ce moment-là, commence à être systématiquement appliquée parce qu'on démontre que la quinine tue les parasites dans le corps humain. Et toute cette suite de lois qui sont approuvées par le Parlement italien pour mettre à disposition la quinine à titre gratuit à toute la population et notamment aux paysans et aux ouvriers des zones malariques. Donc l'effet relativement simple et local délié dans un cycle fermé et exclusif de l'homme et les anophèles produit la grande transformation dans les stratégies de lutte contre le paludisme. Même si beaucoup de médecins de la fin du 19e siècle étaient plutôt gênés par le fait d'être obligés de remplacer la Dea Febris, la Vierge de fièvre, et les autres procédures magiques par un misérable anophèle, qui, comme le dit son nom en grec, signifie simplement un petit animal fastidieux, anophèle signifie ça, cette démarche va rendre possible, finalement, une prophylaxie antimalarique nouvelle, capable de changer le destin de millions d'hommes et de femmes et de transformer écologiquement et économiquement de vastes régions. Il faut dire qu'à l'époque, l'attitude générale restait très prudente, même réservée, ce qui explique aussi une certaine opposition à l'intérêt du Conseil national de la Croix-Rouge à l'idée d'intervenir dans la guerre contre le paludisme. Citons par exemple Giustino Fortunato, un grand politicien du Sud, qui disait à Grassi au moment où il fut convaincu par ces derniers que les anophèles étaient vraiment les responsables de la transmission du paludisme. Je cite, « Je crains que cette découverte, je crois que cette découverte, au lieu d'être utile, puisse être néfaste. Vous nous avez montré du doigt un ennemi, langage militaire, duquel nous ne pourrions jamais nous débarrasser. » Et il avait raison. On ne peut pas se débarrasser de Sanofelle, qui sont encore là en Italie comme en Suisse. Vous nous avez mis sous le dos une paire de plus. Mais Grassi commente, certainement, le problème de nous préserver de la piqûre des anophèles infectés n'est pas simple, mais je me flatte toutefois du fait qu'on arrivera à le résoudre dans un temps rapproché. En effet, dans son étude écologique, il avait montré clairement qu'on pouvait éliminer le paludisme simplement en diminuant la densité d'anophèles, qui cette diminution de la densité empêche le cycle de transmission du paludisme. Avec une rapidité extraordinaire, en 2-3 ans, on passe de recherche aux applications de la recherche, du laboratoire à la clinique. Les scientifiques commencent à parcourir l'Italie pour donner des conférences, pour convaincre la population et les autorités locales et nationales à prendre des initiatives ambitieuses contre le paludisme. Et on crée deux champs expérimentaux. Celli alla Cervelletti, près de Rome, Grazia Capaccio, près de Naples, Fermi en Sardaigne, réalise les premières expériences de prophylaxie sur la base de nouvelles découvertes. Les campagnes nationales antipaludéennes, conduites au début du siècle, se poursuivent principalement avec l'utilisation de la quinine, rendue largement disponible en Italie grâce à la loi sur la quinine d'État de 1901, en association avec d'autres techniques, notamment la protection mécanique, les filets aux fenêtres et aux portes, que vous voyez dans tous les films américains à chaque fois qu'il y a dans la campagne, on sort et on entre dans une maison, la lutte contre les larves et les adultes d'anophèles. Ces mesures sont très rapides, sont très efficaces et obtiennent des succès remarquables. Et la malaria ne regagnera plus en Italie les niveaux précédents. Même si elle sera éradiquée complètement seulement après la Deuxième Guerre mondiale et l'arrivée du DDT. On aborde là un problème assez important pour l'histoire de la médecine et de la santé publique, le rapport entre la théorie et la pratique, entre les expériences de laboratoire dans des conditions contrôlées et la réalité complexe et souvent incontrôlable des conditions réelles de vie et de travail. Au point de vue pratique, bon, là vous avez justement un autre article de Celli, les découvertes récentes sur le paludisme exposées dans une forme populaire. Il faut se faire comprendre par les citoyens pour avoir une prise sur la malaria. C'est surtout Angelo Celli, qui est le fondateur avec Giustino Fortunato et le député Franchetti de la Ligue italienne contre le paludisme, qui élabore la stratégie de guerre et en établissant 6 règles qu'il faut appliquer, notamment entretenir avec les cédéquinines une immunité artificielle chez les sujets sains, ce qui signifie donner des comprimés à des sujets qui ne sont pas malades, ce qui est, comme tout le monde sait, extrêmement difficile à réaliser, parce qu'on prend des pilules seulement si on est malade. Traiter les malades pour éteindre le réservoir de virus avec la quinine, d'accord. Protéger les individus par la protection mécanique, isoler les malades dans des habitations protégées, détruire les anopheles, les larves et les nymphes, et pratiquer les travaux hydrauliques et agricoles nécessaires. La protection mécanique est la plus simple, théoriquement. Ça, c'est une expérience réalisée par Fermi en Sardaigne. Il fait passer une semaine dans une région extrêmement paludéenne. Chacun est protégé de cette manière-là. Ça marche parfaitement. Personne n'est touché par le paludisme. Vous comprenez, c'est difficile de vivre, surtout de fumer, dans ces situations comme telle. Mais plus intéressante, c'est les expériences de Grazia Albanella, près de Naples, dans laquelle la protection en bleu des fenêtres et des portes permet, pendant tout l'été, aux gens qui vivent dans la journée et ne sortent pas le soir dans cette maison, d'être protégés par le paludisme. Étant donné que ces expériences sont faites par les Italiens, ne sont pas assez crédibles, et donc les Anglais envoient une mission à Rome, ils construisent une cabane avec les bois importés d'Angleterre pour éviter des contaminations, et à Ostia, donc ils font pendant la journée des fouilles archéologiques, mais au coucher du soleil, ils entrent dans la cabane protégée, personne tombe malade. La presse italienne met un peu en ridicule ce gentleman qui arrive de montrer finalement, mais c'est ça qui va convaincre aussi les Anglais que la protection mécanique et la quinisation est très efficace. Et l'attaque aux moustiques est également extrêmement importante. Là, vous voyez l'Aveyron en marche sous son dromadaire contre les ennemis. Donc, mais c'est la quinine qui avait une longue histoire derrière soi pour le traitement des remèdes de fièvre et qui avait les désavantages d'être très amère, donc ce qui rendait encore plus difficile de convaincre les paysans et surtout les enfants à assumer les comprimés. Et la loi du Parlement italien pour la distribution gratuite de la quinine sont l'arme, encore métaphore militaire, l'arme décisive. En effet, la quinine di Stato, la quinine produite par l'État, est diffusée, répandue dans toute l'Italie. Il est vendu, pas simplement par les pharmaciens, mais par les magasins de tabac, donc ce qui les rend parfaitement distribués sur l'ensemble du territoire. Vous voyez l'enseigne tabac et tout en bas, quinine di Stato. Pour Celli, ce qui est nécessaire, c'est l'alliance entre l'hygiéniste, l'ingénieur hydraulique qui fait les bonifications, les agriculteurs et les enseignants. La synthèse entre ces 4 compétences permettra de vaincre la, la malaria et réaliser la nouvelle colonisation. Et c'est ça que la Croix-Rouge va faire. Exactement, prendre des compétences dans ces quatre domaines pour intervenir à fond de la, contre le paludisme. Donc, et comme l'écrivait Celli en cette période, les mystères de l'histoire de la campagne romaine auxquels on ne peut pas donner une solution jusqu'à présent est dû au fait qu'il y avait là-bas la puissance funeste de la malaria. Et c'est ça qu'il faut éliminer. Des études avant avaient été faites déjà au XVIIIe siècle par Lancisi, Francesco Puccinotti, qui est le médecin du poète Giacomo Leopardi, a écrit deux livres importants sur le paludisme à Rome, et c'est lui qui a introduit le mot malaria sans apostrophe. Jusqu'à ce moment-là, on écrivait mal apostrophe aria, mauvaise herbe, maintenant on dit malaria. Et Puccinotti qui a introduit ça, et dès qu'on a les statistiques nationales, on montre tout de suite l'importance du problème. Les zones en jaune et en rouge, surtout, sont les zones dans lesquelles on ne peut pas vivre à cette époque-là à cause du paludisme. Et vous pouvez réaliser que Rome, au centre du pays, est bien la capitale, mais elle est entourée par les rouges du désert. D'où la nécessité d'une action. Et en effet, le 9 avril 1900, le conseil municipal de la ville de Rome crée un service sanitaire spécialisé dans la lutte contre le paludisme. Et tout de suite après, les mois suivants, le 18 mai 1900, le conseil général de la Croix-Rouge s'engage dans cette direction et met à disposition des ambulances. S'il s'agit d'une guerre, c'est tout à fait normal qu'il soit la Croix-Rouge qui est mise à contribution. Et en effet, on a maintenant l'action de la Croix-Rouge. Et si j'ai encore 5 minutes, je crois, je vais donner quelques détails sur ces campagnes de la Croix-Rouge contre le paludisme. Je commence avec quelques petites notes biographiques de trois protagonistes. On a déjà parlé de Celli, il est très connu, on n'en va pas parler, mais on peut parler aussi de sa femme, Anna Francelli, qui était d'origine allemande. C'était la petite-fille de deux grands médecins célèbres à l'époque, mais qui, à cause de la mort de son père, se retrouva dans de graves difficultés économiques, donc elle décide de devenir infirmière. Et, mettant convaincu, on ne sait pas bien pourquoi, que c'était beaucoup plus facile pour les femmes de trouver du travail en tant qu'infirmière en Italie plutôt qu'en Allemagne, elle décide de venir étudier en Italie, et sa tante, qui vivait en Italie, qui avait épousé un Italien, lui fait rencontrer l'hygiéniste Angelo Celli, encore lui, qui se trouvait en ce moment-là à Hambourg pour de recherche, ou un stage de recherche dans l'hôpital, dans l'Institut de médecine tropicale. Anna rencontre donc Angelo Celli, puis lui trouve un travail à l'hôpital comme aide-soignante. Celli retourne à Hambourg 2 ans plus tard. Les deux sont restés en correspondance épistolaire. L'amitié se développe. Ils décident de se mettre ensemble. 2 ans plus tard, se marient, en dépit de 22 ans de différence d'âge entre le professeur et la jeune aide-soignante. Anna entre en Italie. Elle devient l'une des protagonistes de la lutte contre le paludisme dans la campagne romaine, et elle participe à la création des écoles pour les infirmières en Italie, et elle participe à la campagne, aux différentes luttes de féministes italiennes. Vous la voyez ici à Milan, c'est la première sous la gauche, dans les campagnes pour l'affirmation des droits de la femme. Le deuxième personnage, c'est Paolo Ponstemski, dont on a déjà parlé ce matin à propos de la campagne. Je me suis mis peut-être un peu tard, mais je n'ai pas trouvé l'image de lui. Pour moi, c'était presque banal. C'est un grand personnage de l'histoire de la Croix-Rouge et de l'histoire générale italienne. Je vais trouver sûrement sur Internet plein de portraits, pas du tout. Je trouvais juste une petite notice biographique dans la grande encyclopédie Trecani, ce qui est l'équivalent pour l'Italie de l'Encyclopédia Britannica, dans laquelle il y avait au moins 3 erreurs que je demandais de corriger, mais malheureusement seulement dans la version en ligne. Et même les noms étaient erronés dans l'encyclopédie. Donc, par contre, c'est un grand personnage qui, pas simplement pendant 18 ans, a fait chaque année un rapport très détaillé sur la campagne anti-paladouane dans la campagne romaine, mais qui était aussi un grand chirurgien très connu au niveau international pour ses innovations techniques, notamment dans le traitement chirurgical des hernies et dans la transfusion sanguine, dont il était un des pionniers qui a utilisé en premier le caoutchouc pour permettre de mieux faciliter les passages du sang, et qui c'était un des premiers à faire une opération intracrânienne pour enlever une tumeur dans la tête. Donc c'était un grand chirurgien, professeur à l'Université de Rome et directeur de la section de chirurgie de l'hôpital San Giacomo, un des plus importants à Rome. En tout cas, en 1899, il participe avec le Parti libéral aux élections pour la municipalité de Rome. Il est élu, il devient même ministre, on dit à Genève, assessore en Italie, assessore à la santé de la commune de Rome. Et c'est grâce à lui qui, en même temps inspecteur de la Croix-Rouge et ministre de la santé de la commune, que la Croix-Rouge décide de commencer ses actions. Et je voudrais maintenant, pour terminer, vous montrer les personnels de la Croix-Rouge en action dans la campagne grâce à des photos. Comme ça va plus vite, et c'est peut-être plus intéressant en cette fin de journée, après une longue journée fatigante. Vous voyez là la situation de la campagne romaine. La lutte anti-paludéenne à l'ancienne était encore une fois fondée et basée sur le feu, non, et sur la fumée. Vous voyez là un enfant sur la droite, probablement un enfant malade, et on expose ses vêtements à la fumée dans l'espoir d'éliminer les venins qui se trouvent dans ses vêtements. Il faut dire aussi que les morts plus fréquents sont des enfants. Comme aujourd'hui en Afrique, c'était la même chose dans la campagne romaine, dans les Marocaines à cette époque. Les enfants, la mort d'un enfant dans cette époque, dans ces régions, était quelque chose de fréquent. Qu'est-ce qu'ils font les professeurs, les infirmiers, les soldats et les ambulances envoyées par la Croix-Rouge? Vous voyez ici Angelo Celli accompagné de sa femme, qui va distribuer la quinine et surtout qui enseigne à lire et à écrire. Parce que ces médecins, qui sont aussi de médecins sociaux, pensent que l'éducation, c'est la clé pour résoudre les problèmes de santé. Il faut éduquer les gens, autrement on n'arrivera jamais à résoudre les problèmes. Donc, dans les habitations très pauvres, comme vous voyez sur le fond, surtout les enfants sont traités. Dans cette photo-là, on voit les protagonistes de cette campagne, qui sont Anna Celli, Angelo Celli, Giovanni Cena, un grand poète, et surtout l'écrivain civil Aleramo, très connu en Italie, qui sont dans le petit village de Lunghezza, qui est maintenant en pleine ville de Rome, et qui à l'époque était la campagne. Il y a donc deux officiers, deux employés de la Croix-Rouge avec le brassard de la Croix-Rouge qui vont distribuer la quinine directement sur les champs de travail. Et là, vous voyez un autre soldat qui est en train de distribuer la quinine aux enfants, et une autre image de la même époque, et dans laquelle vous avez toujours la même action, une campagne assez abandonnée avec les maisons très pauvres et les gens qui entourent la personne envoyée par la Croix-Rouge pour obtenir la distribution de la quinine. Et vous voyez là notre infirmière de la Croix-Rouge qui est directement sur les champs, là on est en train de la récolte du blé, parce que la malaria, bien sûr, frappe surtout du 30 juin à la fin octobre. Le 30 juin, c'est une date significative, c'est Saint-Paul, c'est le jour où la saison malarique commence, formellement, ou dans laquelle on fait des processions à la Dea Febris, à la Vierge de Fièvre, pour protéger les paysans de la campagne. La Croix-Rouge obtient, bien sûr, la reconnaissance officielle. À cette époque, comme ce matin l'a dit Paolo Vanni, est une structure de l'État, et ces rapports sont publiés par l'hebdomadaire officiel de la campagne, du Royaume d'Italie. En 1906, avec cela, je termine, l'action de la Croix-Rouge s'élargit de la campagne romaine au Marais Pontin, tâche beaucoup plus difficile à cause de la grandeur du territoire, mais aussi de la situation plus difficile, aussi du point de vue hydrogéologique. Et ces marais sont très difficiles d'approcher, il n'y a presque personne sous des dizaines et des dizaines de kilomètres. Ce sont un territoire complètement abandonné dans lequel ils vivent juste quelques paysans et des éleveurs qui profitent de cette richesse naturelle pour élever et faire un magnifique pecorino romano qui vient de cette région-là. Le fromage encore aujourd'hui très connu, en partie disparu après la disparition des marais. En tout cas, grâce à ces actions, sur lesquelles je ne peux pas donner trop de détails, mais que je vais illustrer avec des statistiques dans la version écrite, la mortalité et la morbidité en Italie à cause du paludisme diminuent constamment. Les pics, bien sûr, sont liés à la guerre dans laquelle on abandonne toute action prophylactique. Et en 1945, on détruit aussi toutes les protections qui avaient été faites, les digues, les ponts, et donc c'est une reprise terrible. Mais à la fin, on arrivera, après la Seconde Guerre mondiale, à l'éradication du paludisme, grâce justement à cette action intégrée dans laquelle la Croix-Rouge a joué un rôle extrêmement important. C'était vraiment la filière la plus importante dans la distribution de la quinine, dans la protection mécanique et dans l'instruction aux populations. Et grâce à ces efforts intégrés, la mortalité pour la malaria a diminué progressivement jusqu'à disparaître après la Deuxième mondiale. Et je vous remercie de votre attention.
Merci Bernardino de nous avoir mené dans ce voyage. La façon que vous avez de nous parler de la guerre contre la malaria est tout à fait passionnante. Vous nous avez rendu fort sympathiques des gens tels que le ministre Baccelli, les chercheurs Laveyran, Gogli qui ont vu enfin le parasite, Patrick Marson, Ronald Ross et enfin ce zoologiste Battista Grassi qui découvre le coupable. Vous nous avez dit cela.
C'est lui.
Ce petit et tout ce qui est un peu de mathématiques avec homme plus anophèle égale malaria. Cet anophèle qui est un petit animal fastidieux. C'est vous qui me l'avez dit. C'est le nom qui le dit. Une peur de plus, c'est un autre qui nous le dit. Et Chelli et son épouse Anna, puisqu'ils sont devenus époux, dans leur lutte déterminée contre la malaria. Les statistiques en fin de présentation nous ont montré que les résultats sont bien là grâce à une action intégrée et le rôle important de la Croix-Rouge italienne. Merci pour tout cela. Est-ce que, avant que je pose ma question, puisque j'en ai une, il y a quelqu'un dans la salle qui désire poser une question ou apporter une contribution? Monsieur, on vous donne le micro pour pouvoir enregistrer vos interventions.
Merci, Bernardino. I would like to. I'm curious about knowing a little more about the background, political background of Italy and of the malaria campaign at that time. Because you have referred that, of course, the hygienist program is the engine pushing all this campaign from the technological viewpoint. But these people were involved in politics, something, and of course, I guess, I don't know, I wonder whether they were discussions in the in the Italian politics on the malaria issue as a
Yes, this is a very interesting question. And this is also an important aspect because even if we always try to discriminate between, for example, left and right wings, etc., it is very difficult in the case of the Italian political attitude in this period. Because apparently, every kind of political leader is perfectly in agreement with the need to fight against malaria. For example, Celli is a radical. Grassi is a liberal, right to rear to. Postevski is on the right party. He's a military, he's a professor, but he's many connection with the military royalist faction. Fortunato is a socialist, you know, and there is a sort of large intense, you know, there's a large grosse coalition against the paradise. The problem is so important that no party can escape the responsibility to fight against it. And it is a real, especially Celli, who is very active in the parliament, he has been elected as a deputy for 6 or 7 mandate. It says clearly, you have now that we know the cause, the moral duty to apply these big discoveries in a fight against them. Before, we have a lot of excuses because we say this is not worthwhile, etc. Now we know exactly what to do. If you don't do that, you will be morally responsible in face of the country. So there is a sort of large consensus between the different parties in the fight against malaria. I would say, as I said, that there was some discussion in the Italian Red Cross, especially at the beginning, but the discussion is not connected with political differences, but the discussion about, as usual, as Roger said many times, on the role of Red Cross between those who thought that the Red Cross is just for the wars, the real wars, and the other that wanted to expand the field of intervention of the Red Cross. But there was no, on my knowledge, no politically oriented differences.
Monsieur?
Une question qui n'est pas en rapport direct avec la Croix-Rouge, mais je ne me souviens pas quand j'étais jeune et que j'étudiais le latin, que toute l'Antiquité, d'abord la création de cette Rome à cet endroit-là, et toute l'Antiquité romaine, ait été soumise à la malaria et que tous les enfants romains mouraient de malaria autour de Rome et que les troupes romaines étaient décimées par la malaria et tout ça. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps ou pas? Voilà, c'était une première question. La deuxième est un peu idiote ou anecdotique, mais tout à l'heure, il me semblait avoir entendu, même si je ne comprenais pas tout, que l'Église, les extrémistes de l'Église romaine n'avaient pas supporté certaines choses, je crois, en Espagne, et je me demandais si la Vierge des Fièvres était tombée de son piédestal et si les extrémistes italiens romains de l'Église romaine avaient bien supporté ça.
Pour ce qui concerne la première question, elle est évidemment extrêmement intéressante. Alors, on n'a pas le temps d'en discuter dans le détail, mais on peut dire quelques mots. Je voudrais d'abord signaler que le même Angelo Celli, il avait écrit, elle a été publiée après sa mort, une très belle histoire de la malaria dans la campagne romaine, depuis la plus haute antiquité jusqu'à son époque. Et il avait montré très clairement que la distribution et surtout, pas simplement la fréquence, mais la gravité du paludisme avait un rythme cyclique. Il y avait des phases aiguë avec des phases de diminution sans jamais disparaître totalement, mais il y avait des véritables épidémies. Après, il y avait des phases d'endémie, à nouveau des épidémies. Et cette courbe était l'inverse du développement économique. Dès qu'il y avait une crise économique, il y avait aussi une augmentation du paludisme. Et s'est posé la question de savoir qui étaient les primus movens. C'était la malaria qui a provoqué la crise de l'agriculture, ce qui est aujourd'hui, on sait, c'est probable. Ou bien c'est la crise sociale, économique, la guerre, etc., qui avait provoqué l'augmentation du paludisme. Donc, pour votre question, c'est vrai, on ne peut pas généraliser. Il y a des périodes, même pendant l'Empire romain, dans lesquelles le paludisme est très grave. Dans d'autres cas, dans d'autres siècles, dans lesquels le paludisme est moins grave, mais il est toujours présent. Mais à cette époque, c'est moins important, parce que les travaux à la campagne, pendant l'Empire romain, sont réalisés par des esclaves. Les esclaves, c'est comme le bœuf. Quelqu'un meurt, mais on le remplace. Donc, ce n'est pas très grave. Une chose intéressante, c'est que le paludisme grave, c'est-à-dire le paludisme dû au Plasmodium falciparum, n'existait pas en Italie avant le 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui explique pourquoi les Grecs avaient pu construire des temples magnifiques comme Pestum, à Erice, à Metapontum, etc., dans des régions qui, après, ils sont dû abandonner à cause de l'arrivée de cette nouvelle épidémie qui est restée après dans la Méditerranée jusqu'au début du XXe siècle. Pour ce qui concerne l'attitude de l'Église, non, je ne pense pas que... je n'ai jamais trouvé une réaction négative. Il faut aussi dire que le pape, donc, qui n'était pas simplement le chef religieux, mais qui était aussi le chef de l'État, donc, parce que c'était, il y avait l'État du Vatican, il avait à plusieurs reprises, mais sans trop de succès, essayé une bonification de la campagne romaine et des Mare Pontin, notamment Pius V au XVIIe siècle, et aussi encore au début du XIXe siècle. Il y avait des efforts d'amélioration, mais sans beaucoup de succès. Mais en tout cas, il n'y avait aucune aversion à l'utilisation de la science dans la lutte contre la maladie.
Merci. Est-ce que... Oui, nous avons une autre question.
Merci pour votre conférence, c'était très intéressant. Et ce que j'ai trouvé un peu intéressant, c'était l'utilisation métaphorique de la guerre. Oui. Et est-ce que vous savez si c'était la première fois que la guerre était utilisée comme métaphoriquement comme ça, parce que plus tard, il y a beaucoup de guerres contre la guerre contre le cancer, la guerre contre pauvreté. Et j'ai pensé que c'était un phénomène d'après la Deuxième Guerre mondiale. Non.
Non, non. Donc, c'est vrai que les métaphores militaires sont plus importante après, à partir de la fin du XIXe siècle. Là aussi, c'est une conséquence de la révolution pastorienne. Parce que, pour la première fois, les hygiénistes ont des armes. Et ils le disent clairement. Finalement, nous savons, nous connaissons les ennemis invisibles, les microbes. Et il faut développer des armes, donc des médicaments, etc., contre, donc s'il y a une diffusion. Mais la métaphore n'était pas nouvelle. Avait été déjà utilisé avant, par exemple, avait été utilisé largement par les Français lors de l'Empire de Napoléon, qui avait introduit la vaccination obligatoire contre la petite vérole. Et il y avait dans les pamphlets qui illustraient ça l'utilisation de métaphores militaires. La variole, la petite vérole est une maladie, c'est notre ennemi, on a l'arme pour la combattre, il faut vacciner. Et là, chose intéressante, pour revenir à votre question sur l'Église, dans le sud de l'Italie, par exemple, les vaccinateurs les plus importants sont les religieux. Donc, on pourrait imaginer, comme en Angleterre, par exemple, que pour des questions religieuses, on est contre la vaccination parce qu'il s'agit d'intervenir dans la nature. Par contre, en Italie, dans le monde catholique, c'est exactement le contraire. l'effrayante mortalité des enfants, encore une fois, de variole. Lors d'une année épidémique, on pouvait avoir 40% des enfants qui mouraient de la variole. C'est clair que le prêtre se préoccupait de ça. Donc, ce sont eux qui transportaient les enfants pour vacciner les autres enfants du village à côté, parce que, bien sûr, comme vous le savez, il n'y avait pas de stock de vaccins qu'on pouvait congeler, donc il fallait vacciner des bras en bras, et pour cela on transportait les enfants d'un village à l'autre pour prélever la matière purulente pour vacciner, et souvent c'était les prêtres qui s'effaissaient aussi garant de la santé des enfants en assurant le voyage d'un village à l'autre. Mais en tout cas, la métaphore guerrière était présente déjà à cette époque, même si on prenait beaucoup plus de force après la révolution pastorienne.
Oui, on a une question là. Il faut donner le micro. Merci.
Yes, my question, my comment refers very much to the previous one, which is that the expression "war against war" is something which we see in the 19th century with the growth of the peace movement. In the interwar period, and as a result of the First World War, which was a very different war from how people understood war to be, this was a suicidal war. Nobody expected that this war would be as it was, 4 years, millions of victims, soldiers and civilians. We see in the interwar period many writers, including Aldous Huxley, saying we should no longer use the word war, because this war represents traditionally something which people can relate to and which is up to a point rational in the sense of Clausewitz, war as a rational instrument of politics and diplomacy. But today, in the interwar period already, many writers were saying we should no longer use the word war. We should say mass suicide, suicide of civilization, as the First World War in many ways was. And certainly today, weapons of mass destruction, after Hiroshima and Nagasaki, it makes no longer sense to refer to war, because it conjures up something very different from what war traditionally was. So the metaphor of using war was already in a way criticized for warfare itself. And I would like to refer to a very interesting publication by a Czech doctor who was in the First World War, and who in 1932 wrote a very interesting book called Krieg als Krankheit, War as an Illness, in which he was saying war is a pathology of social relations. And he was trying to mobilize doctors and psychiatrists and psychologists somehow to bring clarity and to educate people. And he was saying, doctors, because of their position, they are the first, the medical profession, is the first to have to deal with the consequences of war, the injured, the maimed, people with mental illnesses, and so on and so forth. So the doctors have a very important responsibility in preventing war. And he managed to obtain a foreword by Albert Einstein in 1932. A foreword by Albert Einstein in which he supports this initiative, saying, yes, indeed, doctors should take an interest in the prevention of war. So I think it is maybe unfortunate that of all the professions, sort of in the medical profession, sort of the terminology of war and battle is now so widely used. And I think when one talks about sort of the development of a culture of peace, education for peace, that in a way the concept of war, the word war, it receives a positive connotation sort of in the medical context, the war against malaria and so on. When we talk about this issue, I think, as I say, I find it unfortunate. You may say it is very difficult to move away from military analogies, the enemy and the campaign and the struggle and the battle. But I think particularly the word war, the war against malaria and so on, I think is very unfortunate. And one can also say today, the war against terror. Is this really a war, or should it have been a war, or rather something else? So just some comments regarding the metaphor of war in the medical context. Thank you.
Thank you very much for your important commentaries. In fact, I agree completely with you. I would like just to add two more elements. The first is really autobiographical, because I remember my tutor at the Sorbonne in Paris, who Mirko Karmec, who wrote a book on the history of the war as a pathology. In French, unfortunately, has not been translated. A second element is that the origin of the widely use of the military metaphor, it was also the development in the second half of the 19th century of social Darwinism, the idea to apply to the society the law, the struggle for life, and the idea that in nature there is a war between different species. I think this played an important role in the diffusion of this idea, ideology. Of course, the people that you mentioned, in particular John Huxley, Albert Einstein, I would like to mention also Linus Pauling, was exactly against this metaphor, but notwithstanding, this is an important support. The war against the use of the word war has not been won, because even today, if you look, for example, as I did recently, to the literature around emerging diseases, the language remains military. We are creating network of sentinels in order to find the first event and to build new arms, new weapons against them. But I think this is important. In particular, there is a very important paper written by the Nobel Prize winner. I think they took two Nobel Prizes, Joshua Lederberg, who wrote at the beginning of the new wave of emerging diseases, we should stop to use military metaphors, because we are not fighting against nature. We are part of the nature, and we should replace the military metaphor with ecological metaphor, in which the main issue is to change an equilibrium in favor of human species, instead of trying to destroy our other parts of the biosphere. Thank you.
Thank you, Peter, for this contribution. Thank you, Bernardino. I think that you have now, Roger, new items for a coming conference, because this is an inspiring angle. And est-ce que nous avons d'autres questions pour Bernardino? Je crois que Bernardino, on va vous remercier pour ces travaux. Chers amis, je ne vais pas utiliser une métaphore militaire ni une métaphore écologique, mais quelques métaphores du voyage. Je crois que cet après-midi, nous avons beaucoup voyagé. Nous avons voyagé dans l'espace, guerre russo-japonaise, les Balkans avec François, l'Italie, la Méditerranée. Nous avons voyagé dans le temps, depuis Héraclès jusqu'au monde contemporain. Nous avons voyagé à la croisée des pratiques, l'histoire, la médecine, la psychanalyse, l'écologie. Beaucoup, beaucoup de choses nous sont arrivées cet après-midi. Aussi la diplomatie avec le chemin de La Haye à la conférence de Washington. Je crois que le plus beau des voyages que vous nous avez offert, les conférenciers de cet après-midi, c'est le voyage de l'esprit, car nous avons grâce à vous plus de connaissances. Et avec plus de connaissances, nous avons plus de doutes. Donc nous avons de nouvelles opportunités à vous revoir et à vous écouter sur des sujets nouveaux. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.
Et ça, c'est Bernardino. Ouais. T'es parti. Bien, c'est ça, moi.